La résurrection et le jugement dernier. La première étape décrite ci-dessus peut être considérée comme une sorte d'échauffement pour l'au-delà. Voici maintenant la grande finale. Le séjour dans la tombe n'est qu'un bref prologue à une éternité qui se passera au ciel ou en enfer. Le jour du jugement dernier, Dieu mènera une enquête sur la façon dont chacun s'est conduit sa vie durant. Là encore, le procès se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, les signes de la fin des temps apparaissent. Les signes annoncent l'imminence de la fin des temps. Ces signes comportent notamment l'inversion de l'ordre de la nature. Sourate 81:1-14. Comme le lever du soleil, à l'ouest plutôt qu'à l'est, et le déclin de l'ordre moral. Après une période de troubles, impliquant un conflit entre les forces du bien et celles du mal, les représentants de Dieu triompheront du mal et ce sera la fin du monde. Pour aller plus loin. Comme dans d'autres religions, l'imagination humaine et les traditions sont très créatrices et comblent les lacunes sur ce qui se produira à la fin des temps ou dans les derniers jours. De façon caractéristique, un personnage que l'on nomme habituellement l'Antéchrist, Al-Dajjal, mentionné dans le Coran comme étant la bête, sourate 27:82, apparaîtra. Il détournera les croyants de l'islam durant la période où il régnera. Jésus reviendra pour vaincre l'Antéchrist. Après un règne relativement court, conformément à la volonté divine, comme le dit l'islam, le temps et l'histoire s'arrêteront. Deuxièmement, la résurrection, Qiyama, le fait de se mettre debout, commence. L'ange Raphaël, écoutez précédemment dans ce chapitre la section intitulée « Les différents anges », embouche sa trompette pour annoncer le jour de la résurrection. Sourate 69:13-18. C'est la fin du monde, et au second coup de trompette, seul Dieu subsistera. Tout ce qui est sur terre périra, seule la face de Dieu restera. Est-il dit dans la sourate 55:26-27. Au bout de quelque temps, le monde se reconstituera et les corps reprendront forme dans leur tombe. Raphaël sera le premier des anges à réapparaître, et Mohammed, ou l'un des prophètes juifs, sera le premier à ressusciter, esprit et corps réunis. Viendra alors la résurrection de toute la communauté des musulmans, puis finalement la résurrection de tous les autres. Seul Dieu sait combien de temps durera la période d'anticipation craintive des morts quant à leur destin de ressusciter avant qu'ait lieu le jugement dernier. Troisièmement, le compte est bon. L'heure du jugement. À l'heure de la mort, le livre dans lequel tous les actes du défunt sont consignés sa vie durant est accroché à son cou. À ce moment-là, ceux qui sont destinés à aller au ciel reçoivent ce livre dans la main droite. Ceux qui sont destinés à aller en enfer le reçoivent dans la main gauche. Le livre, ou les actions elles-mêmes, sont placés sur les plateaux de la balance du jugement pour évaluer le poids de l'âme, ce qui détermine le destin final de la personne. Les bonnes actions pèsent davantage que les mauvaises. Pour être digne d'entrer au paradis, il y a un poids minimal à respecter qui est connu de Dieu seul. Quatrièmement, tous traversent le pont qui passe au-dessus du feu de l'enfer et mène à la porte du ciel. Pour les fidèles, le pont est plat et large et la traversée est facile. Pour les pécheurs, le pont devient aussi tranchant que le fil d'une épée et aussi étroit qu'un cheveu, tandis que la traversée s'effectue dans l'obscurité. Ceux-là tombent en enfer. Mohammed retrouve ses disciples fidèles près d'un étang de l'autre côté du pont. La douceur du liquide de l'étang est un prélude à la suavité des eaux qui attendent les purs au ciel. Malgré tout, en raison de la grande miséricorde de Dieu, et l'intercession peut-être du prophète Mohammed, il existe encore une possibilité pour ceux qui risquent l'enfer d'être sauvés et d'avoir droit au paradis. Néanmoins, il reste toujours l'éventualité que certains de ceux qui sont tombés dans l'enfer soient finalement extirpés de l'abîme pour rejoindre le ciel grâce à la miséricorde de Dieu et peut-être à l'aide de l'intercession de Mohammed. Une question en amène une autre. Le récit des événements du jugement dernier a laissé beaucoup de questions importantes sans réponse. Par exemple, qu'arrive-t-il aux enfants qui meurent en bas âge sans avoir eu la possibilité de choisir d'être croyants? C'est là une question capitale, parmi d'autres, qui se pose à tout musulman vraiment croyant. Intercession. L'intercession consiste à confier à quelqu'un qui a des mérites exceptionnels la mission de demander à Dieu de réduire la peine d'un croyant condamné pour ses péchés. À proprement parler, la justice de Dieu exige que chacun reçoive ce qu'il ou elle mérite, ce qui exclut d'emblée toute intercession. Certains musulmans de la première heure ont nié l'intercession. Cependant, l'intercession a fini par être acceptée par la majorité comme manifestation de la miséricorde de Dieu. Mohammed est le médiateur par excellence. La tradition indique qu'après le jugement dernier, Mohammed rencontrera ses disciples, tous les musulmans, à l'entrée du ciel. Certains lui demanderont d'intervenir pour effacer les effets de leurs péchés. D'autres prophètes peuvent également intercéder. Enfants. Qu'arrive-t-il aux enfants de croyants qui meurent en bas âge, avant même de pouvoir comprendre ce qu'est la foi, et à plus forte raison encore, la pratiquer? La croyance islamique populaire en est venue à dire que les enfants des croyants entreront au ciel. Certains disent que tout le monde naît normalement en ayant la foi. Dans le cas des enfants en bas âge, cette foi normale, qui n'a pas entièrement disparu, suffira pour qu'ils puissent entrer au ciel. D'autres ont fait remarquer que la foi des parents permettrait à leurs enfants mineurs d'entrer au ciel. Une éternité en enfer. La logique et la justice semblent suggérer que la sentence qui a été prononcée au moment du jugement dernier doit être irrévocable et valable pour toute l'éternité. Cependant, la miséricorde triomphe sur la sanction en islam. La croyance unanime est que tous les musulmans sincères finiront par entrer au ciel en dépit de la gravité de leurs péchés, excepté probablement le péché qui consiste à refuser Dieu. Certains disent que cette miséricorde finira aussi par bénéficier aux non-musulmans. Au cours des siècles précédents, certains soufis et certains partisans de la modernité ont insisté sur la valeur métaphorique de la description faite dans le Coran du jugement dernier et de l'au-delà. D'autres modernistes arguent du fait que la perception musulmane de la mort et de la résurrection va plutôt dans le même sens que les dernières avancées de la science moderne. Naturellement, même les traditionalistes les plus stricts vous diront que les descriptions du ciel et de l'enfer contenues dans le Coran et la tradition sont à prendre au pied de la lettre, sans que l'on sache exactement comment cela se manifestera concrètement. Le mystère reste entier.